Donc bonjour, je vais vous parler un petit peu de la façon dont on a mis en place la médiation autour des ressources d'auto-formation sur les médiathèques de la Seine. Donc ça date maintenant de 4 ans, puisqu'en fait, quand on a mis en place ces ressources suite à un appel à partenariat en fait, de la BPI, qui souhaitait en fait, avoir un panel de bibliothèques pour pouvoir faire des tests sur les ressources d'auto-formation. On y a répondu en 2016, donc depuis 2016, nous avons un bouquet de ressources d'auto-formation qui nous est donc proposé grâce à la BPI. Je vais d'abord vous contextualiser un peu la ville de la Seyne-sur-Mer et surtout le réseau de lecture publique. Donc la Seyne, c'est la deuxième plus grande ville du Var, hein, avec environ 86 000 habitants. On est passé en métropole depuis un an. Le réseau de lecture publique à la Seyne, c'est 3 médiathèques structures fixes, donc deux plus importantes et une de proximité, un bibliobus qui sillonne les collines de la Seyne et une bibliothèque de plage, puisque nous sommes une ville de bord de mer. Le budget annuel des bibliothèques n'est pas très conséquent, hein, puisque pour un réseau de lecture publique comme le nôtre, on est doté donc, de 88 000 euros. C'est le budget global, hein, c'est l'action culturelle, les abonnements, le petit équipement et les acquisitions. Donc avec peu de budget, on essaye de s'organiser pour essayer quand même de proposer d'autres choses. Donc c'est vrai que le partenariat en 2016 tombait à pic pour pouvoir au moins tester de nouvelles ressources et ensuite savoir sur lesquelles on allait pouvoir se positionner pour pouvoir mieux les proposer à nos adhérents. Donc nous, on fonctionne à 41, donc 41 agents, dont 32 pour le service public. Hein, on a 9 personnes sur le service support. L'équipe numérique est composée de 3 agents, bon, moi compris. Donc en fait, on n'était que 2 jusqu'à il y a 6 mois. On augmente au fur et à mesure, mais voilà, c'est une équipe dédiée pour le réseau. Mais surtout, on a un atout dans notre manche, c'est qu'on a la chance d'avoir une chargée de communication qui est à 50% de travail sur les médias tech et à 50% sur le graphisme et sur la communication de la ville. Donc c'est une personne qui nous aide beaucoup, surtout sur la partie médiation au public. Donc la première chose qu'il a fallu faire quand on est revenu fort de nos 5 ressources d'auto-formation en 2016, ça a été évidemment de former les collègues. Sachant qu'on est dans un groupe donc, de 41, très peu avec de la sensibilité numérique, on dira. Donc la première chose qu'on a fait, ça a été de les former et on les forme régulièrement. C'est vraiment tous les 6 mois, ils me voient arriver avec ma formation et pour certains c'est un peu difficile, mais disons voilà, c'est tous les 6 mois, c'est leur présenter, leur expliquer aussi les changements qu'il y a pu avoir entre temps et surtout les faire tester, parce que je pense que tant qu'on n'a pas testé, c'est difficile d'en parler. Donc pour pouvoir mieux en parler ensuite au public, évidemment avec la formation, mais c'est surtout leur donner après des outils pour pouvoir eux se former tranquillement en dehors de ces réunions-là, et surtout quand un usager vient pour s'inscrire, leur donner aussi les moyens de leur faciliter la tâche. Parce qu'en fait, les 5 ressources qu'on propose jusqu'à présent, c'est 5 éditeurs, 5 façons de se connecter, 5 logins différents, 5 façons d'inscrire les usagers, et à chaque fois, quand on faisait la présentation de la formation, les collègues étaient perdus, ils ne savaient plus qui faisait quoi, ils ne savaient plus comment on se connecte, etc. Donc la première chose qu'on a fait, c'est donc la partie de gauche, c'est de faire en sorte que dans notre réseau qui est accessible dans toutes les médiathèques, on ait un PDF, et ce PDF est dans ce qu'on appelle nos raccourcis utiles, donc toutes les choses dans lesquelles on va trouver par exemple le planning, l'accès au SIGB. On a aussi donc ce PDF donc, où chaque logo est cliquable et qui envoie directement sur l'interface administrateur et avec à chaque fois le rappel des identifiants, puisque à chaque fois c'en était un différent pour chaque ressource. La partie de droite, c'est qu'en fait, en parallèle de cette médiation que l'on fait au quotidien auprès des usagers qui s'inscrivent, on a aussi décidé de compléter en fait nos ateliers numériques qui sont très souvent complets, et ce le premier jour des inscriptions, hein, de pouvoir aussi permettre aux gens de leur dire, bon ben par exemple sur l'atelier de l'environnement numérique, savoir comment ça marche, vous n'avez pas de place, mais à la limite on peut vous proposer quelque chose qui va déjà vous faire évoluer là-dessus. Par exemple, nous, on avait Online Format Pro et le module Le Premier Pas en Informatique. Donc, ça permettait à la personne qui prenait les inscriptions, le jour des inscriptions des ateliers multimédia, de dire, ben voilà, sur cet atelier-là, je peux déjà vous inscrire à cette ressource-là et avec le rappel des identifiants. Ça, c'était vraiment de la ressource interne pour faciliter la tâche des collègues. Ensuite, on a aussi retravaillé sur des petits guides, parce que chaque ressource ayant effectivement son un moyen différent de se connecter, on a refait des guides du bibliothécaire sur, ben voilà, par exemple, là, c'est, je vais vous montrer comment on se log pour accéder à l'administration de vos déclics. Donc, quand on va sur vos déclics, on met ces identifiants-là, avec un rappel à chaque fois, il faut aller à tel endroit, et s'il y a des petites subtilités sur, par exemple, il y a des interfaces administrateurs, elles ne peuvent être ouvertes qu'à un seul endroit à la fois. Quand on est potentiellement 4 médiathèques et donc le nombre d'agents à l'accueil à l'ouvrir, ben c'est bête, mais un rappel de il faut penser à fermer, il faut penser à faire, faire différentes choses, et surtout pouvoir préciser aussi que c'est pas forcément à nous de noter les codes de l'utilisateur, mais que pour vos déclics, par exemple, c'est l'usager qui reçoit directement via la plateforme un mail pour lui donner ses identifiants. Donc à partir du moment où il les a oubliés, ça passera uniquement par la plateforme, pas par nous. Donc ça a été différents outils qu'on a mis en interne avec l'obligation gentille pour les collègues de leur dire, ben, pendant le parcours de l'usager, quand vous faites la présentation des médiathèques, vous avez plusieurs choses à dire, vous avez à parler du réseau, vous avez à parler du fait qu'on est le Wi-Fi et vous avez aussi à parler du fait qu'on est de l'auto-formation. Et donc au fur et à mesure, on arrive à des collègues qui arrivent à en parler plus aisément et en tout cas qui savent orienter vers quelqu'un qui pourra après les inscrire quand ils ne sont pas très à l'aise avec, avec les ressources. La deuxième partie qui a été importante et je dirais peut-être même peut-être pas la plus importante, mais en tout cas une grosse partie, ça a été en fait de faire de la médiation externe, puisque c'est bien de pouvoir en parler aux usagers de personne à personne, mais ça a été aussi bien de pouvoir leur en parler au-delà de nos portes. Donc la première chose, ça a été d'intégrer l'auto-formation au parcours de formation numérique. Donc les ateliers dont je vous parlais tout à l'heure, non seulement en fait on faisait un parallèle entre vous n'avez pas pu être inscrit mais on peut vous proposer autre chose, mais c'est aussi que dans le parcours de formation, on avait se servir d'un ordinateur et au bout d'un moment c'était aussi découvrir les ressources d'auto-formation. Donc ça faisait à chaque fois un public captif entre guillemets qu'on pouvait, avec qui on pouvait prendre le temps pardon, pour leur présenter l'auto-formation. Ensuite, ça a été de faire en sorte que les liens et l'accès soient accessibles, donc 24 heures sur 24, bon, n'importe où, à partir du moment où on a une connexion, depuis le site internet. Et surtout, ça a été une grosse partie de notre communication. À la fin de l'année 2018, en fait, on a eu une période de fermeture pour réaménagement des structures. Et donc, on a voulu insister sur le fait qu'il y avait une continuité du service public et qu'on ne laissait pas nos usagers dehors pendant 2 mois. Et ils avaient toujours la possibilité d'avoir accès à des choses au niveau des médiathèques via le bibliobus, certes, mais aussi via l'auto-formation, via les ressources en ligne qu'on avait. Et enfin, la dernière partie, ça a été aussi un relais dans les médias. Donc, on a de la chance aussi, comme je vous disais tout à l'heure, d'avoir une chargée de com qui est bien efficace et qui nous a permis plusieurs choses. Donc la première chose, ça a été de nous faire des affiches qui sont affichées en permanence dans les espaces multimédia, à l'accueil et aux inscriptions des médiathèques, et qui ont en fait ont été orientées par rapport à un thème. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu mettre un flash sur une ressource en particulier, étant donné qu'il y en avait certaines qui étaient plurielles. On a voulu se dire, bon, bah, alors on a une demande sur les langues, on a une demande sur l'informatique, on a une demande sur l'orthographe, photographe, par exemple. Donc, on va faire une affiche qui pourra rester là, même si un jour, on change de ressources. Donc, on a une première sur l'amélioration de l'orthographe, une sur les logiciels informatiques et puis une autre sur les langues. Ensuite, donc, on a un rappel sur le portail, donc sur le site internet des médiathèques, en rubrique accessible 24 heures sur 24. Donc, on a un rappel du partenariat avec la BPI, on a un rappel de ce qu'on peut faire avec les ressources d'auto-formation, et surtout du contenu. Parce que pour la plupart des gens, si je vous dis Online Format Pro, la plupart de nos usagers nous demandent ce que c'est avec un détail complet. Donc, pour pouvoir après leur permettre de revoir les ressources tranquillement, ils ont donc un descriptif à chaque fois du contenu de la ressource, et surtout avec le logo cliquable qui les emmène directement pour pouvoir se loguer une fois qu'on leur a donné leurs identifiants. J'ai tenu aussi à ce qu'il y ait un rappel d'un mail personnel de quelqu'un de la médiathèque, là en l'occurrence c'est moi, mais ça a bougé, pour avoir un service support pour les usagers quand il y a un problème de connexion, une question, une réinscription, ils ont un mail directement pour savoir vers qui ils peuvent se tourner. Donc ensuite, on a eu une médiation aussi en dehors de nos murs, hein, puisqu'on a eu trois articles donc, dans le journal de la ville qui est distribué dans toutes les boîtes aux lettres. Donc ça fait à peu près 50 000 exemplaires, je crois, qui sont sortis tous les deux mois. En 2017, donc, c'est la partie orange que vous avez sur le bas, donc, avec en gros un accès gratuit, puisque c'est quand même l'avantage majeur des gens qui sont inscrits dans nos médiathèques, c'est d'en avoir aussi un accès gratuit sur les ressources d'auto-formation. En 2018, ça a été autour de la révision des vacances, puisque c'était le numéro de l'été. Et ensuite, pour la fermeture et la réouverture, on a eu une grosse campagne de communication, même en dehors de l'auto-formation, et avec un rappel de à une médiathèque à quoi ça sert, ce qu'on peut y trouver, et avec un encart, effectivement, sur l'auto-formation. Ça a été important aussi pour nous de faire en sorte qu'avec la chargée de com, on ait des rappels. On n'a pas fait une campagne de com et on s'est arrêté. Il a fallu en refaire régulièrement parce que c'est avec la régularité aussi qu'on finit par toucher plus de personnes et puis qu'on fait des petites piqûres de rappels. Et dans le dernier échelon de communication, on a aussi des relais dans la presse locale. Alors pour chez nous, ça s'appelle Varmatin. C'est le quotidien qu'on retrouve avec toute l'actualité en fait du Var et parfois d'ailleurs. Et de temps en temps, en fait, on a la possibilité de relayer via des articles. Ici, par exemple, c'était le lancement de la plateforme MusicMe qu'on a réalisé en septembre. J'ai pas réussi à retrouver d'autres articles des autres moments d'auto-formation qu'on avait lancés, mais en tout cas, voilà, celle-là, c'est un petit résumé et puis c'est diffusé encore plus largement que dans nos murs et que dans la ville. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ?
Merci, oui. Est-ce que vous avez des questions sur l'expérience riche de la collègue de la Seine-sur-Mer ?
Bah non.
Oui, vas-y.
Est-ce que vous avez pu évaluer l'impact justement de vos actions de com sur la fréquentation des ressources d'auto-formation ? C'est peut-être difficile, mais numérique globalement, est-ce que vous avez...
Alors c'est toujours un peu compliqué parce que vous savez, tout ce qui est module de statistiques et même chiffres, c'est-à-dire que chaque année, nous on faisait un bilan pour la BPI en fait, pour avoir pour savoir à quel point les ressources étaient utilisées. Et en fait, entre les chiffres que j'arrivais à extraire moi, les chiffres que me donnaient les éditeurs et puis les chiffres du bilan, on n'était jamais sur les mêmes choses. Donc sachant qu'en plus c'était des chiffres qu'on faisait de manière annuelle, on n'a pas eu un impact immédiat en fait de nos campagnes de communication derrière, mais en tout cas on sait que c'est grâce à ça qu'on a, il me semble, dans les 350 adhérents actifs en auto-formation par an.
À 350 adhérents sur combien d'abonnés
Alors ça aussi c'est pareil, ça dépend du SIGB, ça dépend de plein de choses, mais on a à peu près, on touche à peu près 10% et je crois qu'on est autour de 7000 adhérents actifs. Voilà.
Bonjour. Et pourquoi vous avez, c'était techniquement pas possible, pourquoi vous n'avez pas choisi dans l'accès à distance d'avoir une connexion et c'est SSO unique pour vos usagers d'avoir ces inscriptions et à gérer vous-même les mots de passe du coup, qui
non,
vous
non, je sais, c'est quelque chose qu'on va réfléchir maintenant qu'on va voler de nos propres ailes, hein, vu qu'on sort du partenariat à partir de la fin de l'année. C'est qu'en fait, les SSO étaient payants. Et qu'à l'époque où on a mis en place les retours d'osso-formation, nous, on était vraiment sur du test et sur du ben, on ne sort pas plus que ce qu'on avait, surtout qu'on a été dans une période plus difficile encore que maintenant.
D'accord. Voilà. Okay.
Les missions de l'équipe numérique, globalement, vous, donc vous êtes maintenant trois, c'est ça, sur l'ensemble du réseau. Est-ce que vous pouvez nous décrire, pour qu'on arrive justement à contextualiser aussi tout le travail que vous avez fait là, qui est remarquable, et qu'on arrive à contextualiser dans les missions globalement qui sont dévolues à l'équipe numérique?
Alors, en fait, l'équipe du numérique, à la base, on était deux. C'est surtout, en fait, de la formation au quotidien. Donc, on est positionné sur des espaces multimédia identifiés dans les médiathèques. Le déséquilibre en fait, qu'on avait jusqu'à présent, c'est qu'en fait, l'équipe numérique composée de notre duo numérique était à un seul endroit dans la ville. C'est-à-dire qu'on était tous les deux sur la médiathèque André Chédid. Là, maintenant, on essaye en fait, de faire en sorte qu'il y ait quelqu'un dans chaque structure, histoire d'avoir un relais et de pouvoir recentrer en fait, quand on doit faire des actions ou des réflexions sur la communication, sur le contenu des ateliers multimédia, sur, là maintenant, on chapeaute même des services civiques parce qu'on nous les prêtes dans le cadre d'une c'est un peu le cas dans le cadre en fait de l'aide à aux démarches dématérialisées. Donc voilà, c'est on a ce genre d'action, c'est surtout en fait de l'aide à la réduction de la fracture numérique en fait, hein, sur le réseau des médiathèques. Est-ce que c'était question?
Oui, c'est ça.
Pas du tout de présence sur les réseaux sociaux ou c'est quelque chose que vous...
Si, pardon, j'ai complètement oublié. Non. Non, on a une présence limitée, on va dire. C'est qu'on fonctionne essentiellement avec un Facebook. Mais on sait que Facebook, c'est la fracture numérique est en fait... Pardon, je reprends du début. Le projet de service, en fait, s'oriente sur deux axes, sur les actions à faire, les 0,25, puisqu'en plus, il y a une direction au niveau de la mairie sur les 0,25, et sur la réduction de la fracture numérique. Et en fait, sur j'ai perdu le début de ta question... Oui, pardon. Et en fait, on se rend compte que sur le Facebook, on a beaucoup des gens qui ne sont plus des 0,25 ans, puisque on a beaucoup d'utilisation sur d'autres réseaux sociaux et sur des réseaux sociaux où malheureusement, on a besoin d'énormément de réactivité et c'est quelque chose qui demande beaucoup de personnel, beaucoup de temps, beaucoup voilà. Donc on est surtout sur du Facebook, mais c'est du relais en fait de l'information, un peu comme on aurait de la newsletter, beaucoup plus rafraîchi, mais voilà, c'est l'essentiel en fait. La ville a un Twitter, mais ça reste les informations de la ville.
Bonjour, je travaille pour le réseau des médiathèques de Cergy-Pontoise. Les cinq ressources que vous avez dans le cadre du partenariat avec la BPI, vous dites sortir du partenariat à la fin de l'année, vous allez pérenniser les cinq ressources?
Alors,
et
non.
Sinon, comment avez-vous fait le choix des ressources à pérenniser?
Alors en fait, on a fait un petit calcul hein, de base, de voir même avec la négociation Carrel combien ça représentait en fait de voler de nos propres ailes en gardant les cinq ressources qu'on a actuellement. Je crois qu'on était à un tiers du budget d'acquisition, hein, parce que les 88 000, c'est pas que de l'acquisition, un tiers des budgets d'acquisition, et on s'est dit, bon, ben, soit on dit aux collègues qu'on arrête de travailler, et à ce moment-là, ça va être compliqué, soit on réfléchit autrement. Et en fait, nous, on est parti sur plutôt aller travailler avec un agrégateur de ressources, plutôt que de choisir une ressource par-ci, une ressource par-là. Mais ça a été très formateur dans le sens où ça nous a permis de voir que dans le réseau de lecture publique de la Seine, il y avait énormément de demandes sur, on va dire, il y a trois modules essentiels sur lesquels on a beaucoup de demandes. Les autres, c'était un peu du bonus ou c'est du développement, enfin, ça rentre dans le développement personnel presque. C'est beaucoup de la langue, beaucoup de l'informatique, en fait. Et donc, on va sûrement changer. Oui, et ils sont prévenus, il y a un mot sur le site internet, on les a déjà prévenus en amont que c'était pour un temps et qu'on allait évoluer sur autre chose et qu'on leur ferait de nouvelles présentations à ce moment-là.
Donc nous allons présenter notre retour d'expérience en Meurthe-et-Moselle avec du coup une démarche un petit peu différente puisque nous sommes une médiathèque départementale. Et donc avec la particularité de ne pas avoir un contact direct avec finalement les usagers de ces ressources. Donc au moment effectivement où nous avons vu l'appel à projet de la BPI, c'était pour nous une réelle opportunité, nous étions très enthousiastes parce que nous avions commencé à réfléchir à l'envie de développer de l'auto-formation sur le territoire, mais... Bon, avec des contraintes budgétaires de l'époque voilà, qui ne nous avaient pas permis de le faire. Et donc dans notre réponse à cet appel à projet, nous avons tout de suite choisi un angle qui était d'associer les services de l'insertion du département avec des publics effectivement en difficulté et souvent éloignés des bibliothèques. Donc nous avons rencontré, avant la rédaction de notre projet, nous avons rencontré le directeur des services de l'insertion du département pour voir avec lui quels étaient les besoins. Il nous a confirmé qu'il y en avait nombreux. Nous avons fait une réponse dans ce sens-là avec la volonté de toucher bien évidemment le public des bibliothèques, mais aussi les publics relevant des services de l'insertion, public des RSA, public migrant. Voilà, donc notre projet a été sélectionné, nous en étions bien évidemment très heureux. Et donc à partir de ce moment-là, il a fallu mettre en place une démarche de travail. Après notre première réunion à la BPI, nous nous sommes rendus compte que en fait, les ressources pouvaient uniquement être proposées donc dans les bibliothèques et pas forcément dans les lieux avec lesquels nous avions pensé mettre en place des partenariats, comme nos collègues de l'insertion. Donc nous avons un petit peu révisé notre positionnement et réfléchi du coup à nous appuyer sur quelques bibliothèques du territoire donc c'était des bibliothèques rurales, un quartier de la ville de Nancy et des communautés de communes. Bien évidemment, ce projet nous a appris la patience parce qu'au démarrage, c'était un petit peu déjà la découverte des ressources avec... comme l'a dit notre collègue, des modalités d'accès très différentes, des contraintes particulières pour chaque ressource, fait que ça nous a pris un petit peu de temps, effectivement, pour nous familiariser, nous, en interne, avec ces ressources. Donc, nous étions deux à travailler sur ce projet, Marie-Christine et moi-même. Tester les ressources, voir leurs particularités et essayer de voir comment intéresser quelques bibliothèques de notre réseau pour les embarquer dans ce projet.
Effectivement, donc Cathy parle de patience, on a mis 2 ans à avoir quelques résultats. Ça a pris pas mal de temps, donc ça nous a pris aussi la patience. Alors que le numérique, souvent, c'est des résultats immédiats, là c'est un peu à l'opposé. Alors un petit peu de géographie, un petit peu d'histoire, voilà où se trouve notre département dans le Grand Est, ex-région Lorraine, avec une forme un peu particulière, ça c'est pour vous expliquer un peu aussi les difficultés au quotidien qu'on rencontre. On a une antenne à Longwy, à la frontière du Luxembourg et de la Belgique, et pour expliquer aussi que sur ce territoire-là, c'est au nord du département, Il y avait des besoins en langue, et ça, nos collègues, les bibliothécaires de la bibliothèque intercommunale de Longwy, avaient déjà travaillé sur ce sujet. Ils ont un fonds de documents sur les langues, sur l'orientation professionnelle, parce que c'est une région, enfin, pour les plus anciens, vous avez dû en entendre parler, l'effondrement de la sidérurgie a été un réel traumatisme pour tout le nord du département. Donc de gros besoins en formation, des gros besoins en langue. Le département, effectivement, c'est des territoires très hétérogènes, avec des zones rurales qui ont eu un passé un peu glorieux quand même. Enfin, c'est rural agricole, avec des faïenceries, des filatures. Deux métropoles, une dans le département à Nancy, puis une autre à Metz, qui est pas très loin. Des villes moyennes et des quartiers politiques de la ville. Alors donc, quand on travaille en bibliothèque départementale, il faut aussi s'adresser à toutes ces bibliothèques qui desservent ces publics très différents. Entre-temps, il y a la loi NOTRe qui est entrée aussi en vigueur et qui a beaucoup bouleversé les intercommunalités. Et ça nous a demandé aussi de nous réorganiser en interne pour travailler avec les bibliothèques, quelques bibliothèques intercommunales. Alors voilà, c'est comme beaucoup de bibliothèques départementales, les territoires sont inégalement répartis, vous voyez. Il y a des zones blanches, il y a des zones de forte concentration de bibliothèques. Enfin, la carte, je ne sais pas si elle est très lisible pour le public. Enfin, ça c'est... Ça va ? Ok. Cathy, je te donne la parole. Donc voilà, on rappelle...
Oui, voilà. Bon, donc l'offre BPI a été présentée précédemment, donc on ne va pas trop s'éterniser dessus. Le contexte, lorsque nous avons démarré ce projet au niveau de la médiathèque départementale, il y avait pas mal de chamboulements, un changement de direction. Nous étions en travaux dans des locaux provisoires et pour bien démarrer, nous avions un site internet qui était complètement obsolète. Donc ça commençait pas très bien. On a réussi à s'adapter et du coup nous n'avons pas proposé les ressources sur notre site internet, mais c'est chaque bibliothèque partenaire qui a proposé donc les ressources sur place et à distance. Voilà. Donc la sélection des bibliothèques, comme j'ai commencé à l'expliquer, donc nous avons pris une bibliothèque qui était vraiment en zone rurale, petite bibliothèque, gérée par un agent qui était donc sur en bas du département à droite, c'est la médiathèque de Badonvillers, qui est gérée par un agent et une équipe de bénévoles. Donc voilà, nous avons fait le choix de voir si on arrivait dans ces zones-là à promouvoir l'auto-formation, parce qu'il y avait des besoins. Mais voilà, au niveau de l'équipe, ça a été un petit peu compliqué parce qu'elle était instable à ce moment-là et du coup, on n'a pas trop eu finalement de résultats de ce côté-là. La médiathèque du Haut-du-Lièvre sur Nancy, donc c'est la... Elle a été donc avec nous sur ce projet dès le départ, très investie et avec laquelle on a eu vraiment de bons résultats. Il y avait des besoins et une forte mobilisation de l'équipe. Ensuite, dans le nord du département, la médiathèque intercommunale de Longwy, donc comme on l'a dit, qui avait des problématiques plutôt en langue étrangère. Ensuite, le réseau des bibliothèques Moselle et Madon. Donc, c'est une communauté de communes qui se trouve près de Nancy. Le réseau des bibliothèques de Pont-à-Mousson, donc encore un réseau intercommunal. La ludomédiathèque de Frouard. Et là, tout dernièrement, en 2019, courant 2019, la médiathèque de Toul. Donc, le démarrage du projet s'est passé en plusieurs temps. Une fois que nous avons testé les ressources en interne, nous avons proposé donc au départ à 4 bibliothèques de notre réseau de s'associer à nous pour tester et proposer cette offre à leur public. Donc, cela s'est traduit par une première réunion de prise de contact où nous leur avons présenté les ressources échanger pour voir si elles étaient intéressées par le projet, si elles avaient aussi des besoins d'auto-formation. Ensuite, nous avons travaillé sur l'aspect communication pour imaginer un kit de communication que nous allions pouvoir proposer à chacune des bibliothèques qui travaillaient avec nous, partenaires. Donc, ce kit de communication, en fait, nous l'avons élaboré dans un premier temps, Marie-Christine et moi, avec les services de communication du département. Puis, nous l'avons montré à nos bibliothèques partenaires et à nos collègues de l'insertion, qui nous ont notamment, les collègues de l'insertion nous ont notamment fait des retours intéressants sur le vocabulaire que nous avions choisi, qui n'était peut-être pas très parlant pour le public que nous souhaitions cibler. C'est-à-dire au début nous avions parlé de ressources d'auto-formation, nous avons modifié cette terminologie en partant plutôt comme nos collègues de la Seine-sur-Mer sur des besoins, qu'avons-nous besoin de travailler, des choses concrètes. Voilà, donc ils nous ont bien aidés sur le kit de communication. Et ensuite, donc, nous avons organisé par territoire une seconde réunion d'information où là, nous avons donc associé les bibliothèques partenaires, nos collègues de l'insertion, ainsi que les associations du territoire en lien avec le social et l'insertion. Donc des réunions d'information très riches qui a permis de mettre en contact des interlocuteurs qui souvent ne se connaissent pas. Sur certains territoires, c'était vraiment flagrant. Donc lors de cette réunion d'information, nous avons présenté de manière générale le rôle social des bibliothèques, quelle était la place des bibliothèques aujourd'hui, quels étaient les services qu'ils pouvaient apporter. Donc une découverte à la fois pour nos collègues de l'insertion et pour les associations qui étaient présentes. Et ensuite, la bibliothèque donc partenaire a présenté les ressources qu'elle avait choisies, puisqu'elles n'ont pas forcément toutes choisi l'ensemble des ressources. Les ressources choisies et la manière dont elles allaient mettre en œuvre ce projet. Voilà. À la suite de ces réunions, nous avons effectivement invité la presse de manière à faire un genre d'inauguration et de lancement du démarrage des ressources d'auto-formation sur la bibliothèque et son territoire.
Lors de ces réunions aussi, on l'a toujours fait, on insistait pour qu'il y ait un moment convivial aussi, pour qu'on puisse, les bibliothécaires, les travailleurs sociaux et les acteurs des associations puissent mieux se connaître pour eux ensuite bien accueillir les publics qu'ils desservent. Donc voilà ce qui s'est passé à l'article qui est sorti après cette réunion à Pont-à-Mousson. Voilà, pour insister aussi sur le fait que c'était simple et que c'était gratuit. Donc la presse quotidienne régionale, elle est beaucoup lue sur nos territoires. Ça a beaucoup d'impact. Pas forcément par les publics concernés, mais en tout cas par les acteurs du champ social. Et évidemment les élus, parce que ça c'est important aussi d'informer les élus sur les territoires. Vas-y Cathy, excuse-moi.
Je t'en prie. Donc là, on peut voir par cet exemple donc, comment s'est réappropriée la médiathèque de Pont-à-Mousson, comment elle s'est réappropriée le kit d'auto-formation que nous avions fourni. Donc là, ça présente la réunion et ensuite on doit voir les différents outils qu'ils ont proposés à leur public. Donc, par exemple, pour l'exemple de la médiathèque de Pont-à-Mousson, ils ont proposé des parcours thématiques de formation. Comme on peut voir, parcours informatique, des parcours langue, parcours français, parcours concours. Donc, sous forme d'ateliers qui étaient proposés dans la médiathèque pour le grand public, ainsi que des créneaux réservés, donc là, pour les apprenants qui étaient accompagnés par des travailleurs sociaux, par des associations.
Voilà. Ils ont fait un petit livret présente toutes les ressources.
Qui présentait toutes les ressources avec effectivement le mode d'emploi de chaque ressource.
Ben on va passer aux résultats. Donc à notre grande stupéfaction, au dernier bilan, on s'est aperçu qu'on avait 500 inscrits sur les ressources.
Pour l'année 2018.
Et encore, en communiquant avec nos collègues, notamment de Nancy, enfin de la médiathèque du Haut-du-Lièvre, certaines ressources enfin, ne sont inscrites que l'éducatrice qui accompagne les mineurs étrangers non accompagnés. Donc ces chiffres, à notre sens, seraient plus importants. Mais ça, c'est assez difficile avec ces publics aussi d'évaluer la portée, l'impact du service. Pour nous, pour le service, ça a été une belle opération de relations publiques vis-à-vis des services de l'insertion du conseil départemental, puisque bon, on est un service de 27 agents à la médiathèque et on travaille dans une collectivité de 3000 agents. On nous demande de travailler en transversalité, on s'y emploie, mais voilà, ça a été un bel outil aussi pour y parvenir. Ça a été une belle opération, aussi une belle carte de visite pour toucher les bibliothécaires du réseau. Ça nous a permis de travailler avec des bibliothèques importantes avec lesquelles on n'avait pas trop l'habitude de travailler et ça a été aussi des beaux partenariats. On a beaucoup appris avec eux. Bon, ça a été super intéressant. Et ça a été aussi, une reconnaissance de la part de nos collègues, parce que Cathy et moi, on travaille pour le numérique, mais pas que. Mais on a d'autres collègues qui travaillent aussi dans le numérique, enfin un, et plus les services civiques, qui travaillent sur d'autres services numériques un peu plus, on va dire, fun, les jeux vidéo, les choses comme ça. Et l'auto-formation, franchement, ça. Voilà, les gens sont toujours un peu. On trouve ça rébarbatif, quoi. On se demande ce que c'est. Notre directeur, pareil. Et puis quand ça a fonctionné, là, on a regardé ça avec un autre regard aussi. On avait plus de considération. Voilà. Enfin, on ne va pas s'étendre là-dessus parce que ça fait un peu trop autosatisfaction, mais quand même, pourquoi s'en priver ?
Vas-y.
Et là où ça marchait, enfin dans les bibliothèques, il fallait que les équipes soient impliquées. Pas forcément des experts en numérique, hein. Ça c'est pas du tout un préalable, faut pas exagérer non plus, mais en tout cas si on n'est pas familier du numérique, on peut y arriver, il suffit d'être impliqué, puis de savoir pourquoi on est là, de connaître le public qu'on doit desservir ou qu'on dessert déjà, de vouloir connaître les associations qui œuvrent sur les territoires aussi. Donc, ça nécessite un accompagnement et une médiation très forte. La médiation, elle nous échappe un peu. La médiation que nous, on opère en bibliothèque départementale, c'est avec nos collègues des bibliothèques. On passe par cette étape-là, mais le public, on l'a peut-être vu une fois lors de l'inauguration du Haut-du-Lièvre, où il y avait le président du conseil départemental qui était venu, et puis on avait tenu à ce qu'il y ait des usagers, notamment d'Online Format Pro qui étaient là, et c'est là qu'on a pu voir des usagers. C'est un peu frustrant parfois, mais bon, quand on voit des résultats comme ça, c'est pas si gênant que ça. La reconnaissance aussi par l'institution, par les associations qui sont très demandeurs et qui ont découvert l'offre large des services des bibliothèques. Parce que on ne s'est pas contenté aussi de faire découvrir cette offre d'auto-formation auprès des associations, auprès des services du social. On en a profité pour montrer aussi l'évolution des bibliothèques actuelles, parce que souvent l'image qu'ont nos collègues du social, c'est une image un peu ringarde, un peu poussiéreuse. Et quand on les a fait venir dans les lieux, notamment à la bibliothèque de Nancy, à la ludomédiathèque de Frouard aussi, qui est un troisième lieu, les bibliothèques de Pont-à-Mousson, qui sont en train de se transformer, vraiment les yeux étaient écarquillés, quoi. Il n'en revenait pas que les bibliothèques... soit comme ça maintenant, avec des jeux vidéo, un espace presse, où on puisse emprunter de la musique ou du cinéma, qu'il y ait de l'action culturelle, enfin voilà. Ces services, en fait, sont très, très méconnus. Et nous, à force de vivre dans cet univers-là, on ne s'en rend pas compte. Pour nous, c'est naturel, mais pour nos partenaires potentiels, c'est pas encore dans les esprits. Donc je pense qu'on a un déficit de notoriété et il faut en profiter d'avoir des services comme ça pour faire connaître ce qu'on fait. Voilà. Donc la surprise aussi, ça a été la ressource qui a cartonné chez nous, à savoir Online Format Pro, que Cathy et moi au début on trouvait franchement, un peu très moyenne, quoi, pas attractive, avec des dessins très vieillots. Et c'est celle qui a connu le plus de succès.
Je voilà. pense que les conditions d'accès ont vraiment joué pour le succès de cette ressource et la simplicité d'utilisation.
Voilà. Bon, bah.
Tu peux expliciter les conditions d'accès, elles ont évolué
à... En fait, en tout cas dans le cadre du partenariat, donc il y avait un accès illimité sur place et à distance. Mmh. Voilà. Alors que d'autres ressources avaient des contraintes quand même très... un nombre d'accès, parfois on était à 2-3 accès, certaines ressources étaient uniquement consultables sur place, voilà. Donc ça a beaucoup joué, ça a même freiné certaines bibliothèques qui n'ont pas eu envie plus que ça d'investir du temps quand les contraintes étaient trop importantes. Ouais.
Bien, merci pour cette expérience aussi qui est très riche et très complémentaire à celle de la collègue de la Seine-sur-Mer. Y a-t-il des questions dans la salle sur...
Merci. Merci pour votre présentation. Moi, je travaille à La Lily-Rose dans le Val-de-Marne. Et vous avez beaucoup insisté sur vos relations avec les partenaires de l'insertion dans le cadre de la construction de cette offre, et en particulier sur les associations. Je me demandais si vous aviez rencontré d'autres partenaires de l'insertion autour de la formation continue, notamment de l'insertion professionnelle, les Greta, ce type de partenaires. Et ma deuxième question, ça concerne l'offre en certification en langue, et notamment en langue française. Est-ce que vous avez été encouragé à proposer des formations en flux certifiantes type test de culture française ou le DELF, je crois.
J'ai pas trop compris la deuxième question.
Je pense que c'est un peu difficile de répondre à cette question puisqu'on n'est pas directement avec le public. Par contre, on travaille avec une association qui travaille sur la prévention de l'illettrisme qui a orienté des personnes qui sont sorties de cette situation d'illettrisme et qui ont pu être en autonomie sur cette ressource. Mais bon, le côté certification, reconnaissance des acquis, je ne peux pas vous répondre, il faudrait qu'on se tourne vers nos collègues de l'insertion. On n'a pas encore eu de retour là-dessus. Je pense qu'il faut encore qu'on persiste. Et puis on pourra vous répondre.
Est-ce que ça n'a pas été trop difficile de passer le relais, justement, tous les tests que vous avez fait, l'appropriation des ressources numériques, et de passer ce relais-là aux travailleurs sociaux et aux associations? C'est pareil, vous avez dû consacrer du temps.
En fait, ce sont plutôt les bibliothèques relais qui, elles-mêmes, ont fait ce gros travail de découverte et d'appropriation des ressources, et qui était très présente en accompagnement des groupes ou des binômes qu'elle recevait. Donc je pense pas que ça ait trop pesé sur les travailleurs sociaux parce qu'ils étaient extrêmement bien accompagnés dans les structures où ça a fonctionné. C'était vraiment comme ça, un accompagnement très présent des équipes.
L'évaluation des ressources, c'est vous ou c'est chaque bibliothèque en fait qui
oui.
vous fait remonter?
Chaque
son
bibliothèque nous faisait remonter donc ces évaluations avec certaines réserves, comme on l'a dit, puisque parfois c'était les travailleurs sociaux qui avaient un compte et non pas finalement les usagers. Hein, donc c'était une évaluation qui était pas complètement juste, mais qui donnait quand même une bonne idée de l'utilisation des ressources, quoi. Sur la partie, pour revenir sur la partie français langue étrangère, c'était un peu, au début c'était un peu compliqué parce que par exemple le module FLE d'orthodidacte, tout de suite on nous a dit non, ça répond absolument pas au niveau des publics que nous avons. Donc du coup ils ont plutôt utilisé Online Format Pro. Toutes les bibliothèques qui ont participé au projet sont plutôt parties sur cette ressource-là parce que le niveau du module proposé dans Orthodidacte était trop élevé en fait.
Et la question que je me pose encore, c'est sur l'évolution. Maintenant, vous allez financer les abonnements des bibliothèques à ces ressources ou bien vous pensez proposer sur votre portail des ressources? Comment est-ce que...
Le micro pour Fabien.
Oui, donc je vais dire d'où je parle, puisque on a été partenaire avec Marie-Christine et Cathy, moi au titre des bibliothèques de Nancy, et notamment responsable de cette médiathèque de quartier, la médiathèque Audulièvre, qui a donné effectivement de très très bons résultats. Et c'est vrai qu'apprenant la fin du partenariat, et devant l'insistance de ma chère équipe, qui a eu des très bons résultats, et qui veut surtout assurer une continuité de service, c'est-à-dire pas changer de ressources justement, on va prendre sur notre budget, qui pour le coup le permet, pour continuer l'expérience. Et donc c'est un petit peu particulier parce que Online Format Pro, on va le garder uniquement pour cette médiathèque, éventuellement dans les années à venir, mais ça on va y réfléchir, à le faire évoluer pour d'autres médiathèques, notamment de quartier, alors que nos autres ressources d'auto-formation sont à un niveau beaucoup plus mutualisé, puisque c'est sur un site, l'Immédiat Mosaïque, de ressources numériques pour tout le sillon lorrain. Donc 4 collectivités du Grand Est, Metz, Thionville, Nancy, Épinal. Et là, clairement, on a fait le choix, vu que tout le travail avait été de travailler avec des associations directement, vraiment assez différentes d'ailleurs, et de toucher du public sur place, et c'est super important aussi ce rapport-là, vraiment direct, même s'il y a eu une continuité après à distance, c'est pour ça que effectivement la ressource marchait bien, donc on a décidé de le continuer, et c'est vrai que c'est une belle réussite. Ouais. Et ça me fait penser quand même que, puisque c'est les questions qui se posent là, dans ce genre de journée, que sans action de médiation comme ça au plus proche, pour l'auto-formation c'est quand même compliqué, quoi. Ouais. Même si on a eu beau dire qu'il fallait qu'elle soit accessible tout de suite, quelle qu'elle soit, vu les publics qu'on veut toucher, plus ils sont en difficulté, plus c'est difficile, il faut vraiment travailler. Donc pour répondre à une question qui était posée tout à l'heure, on travaille avec des associations de mineurs isolés, de migrants, avec Amitié de Tsikane, avec vraiment tout un tas d'associations qui sont sur ce quartier-là. Et c'est comme ça que ça donne des très bons résultats.
Chantal Sibylle de la BPI. J'aurais souhaité savoir si, à travers par exemple votre bilan, ça aurait été l'occasion, peut-être dans une dynamique, que des usagers, via vos bibliothèques relais, vous fassent remonter d'autres formes de besoins. C'est-à-dire que voilà, dans ce projet, il y a tel et tel besoin qui ont été, enfin que vous avez réussi à mettre en exergue et y répondre avec l'offre donc, de ce partenariat. Mais est-ce que... peut-être, je ne sais pas, c'est une question ouverte. Est-ce qu'il y a d'autres besoins qui ont émergé parce que cette offre existait?
On n'a rien entendu.
Non.
Après, de faire émerger des besoins, si on n'est pas en capacité d'y répondre, c'est un peu compliqué aussi. Et je pense aussi que le numérique, ce n'est pas la seule réponse qu'il y a aussi aux besoins qui existent. Et puis nos collègues qui travaillent dans les bibliothèques municipales ou dans les bibliothèques intercommunales, qui sont en direct avec ces publics-là, sauraient nous le dire. Et autrement, on a nos collègues de l'insertion avec qui on communique, avec qui c'est assez facile maintenant, peuvent aussi nous contacter pour s'exprimer sur leurs besoins. Mais bon, déjà le fait de visiter les bibliothèques et de voir toute cette offre, je pense à la bibliothèque de Frouard qui proposait par exemple un Fab Lab avec des machines à coudre, des heures de relaxation, des heures du compte. Vraiment, ça a été une découverte aussi pour les salariés du conseil départemental qui sont sur ces territoires-là et qui peuvent amener des familles à la bibliothèque. Voilà, ça Ça dépasse l'auto-formation et le numérique.
Et du coup, peut-être une dernière question justement dans ce domaine des besoins, dans ce registre-là. Les associations qui accompagnent les personnes, les usagers, est-ce que vous avez des retours sur la plus-value que les ressources numériques ont pu apporter à leur activité? Est-ce que c'est une aide et dans quel cas?
Moi, j'ai eu le retour de Marianne Grosjean, de l'association là, de lutte contre l'illettrisme. Oui, c'est les gens qui sortent de l'illettrisme. Retrouve une certaine fierté, retrouve confiance en eux par le fait d'être autonome face à un écran, par exemple. Il n'y a pas besoin de savoir écrire, il suffit de bouger la souris, etc. Il y a toutes ces personnes aussi qui viennent de l'étranger et qui sont très à l'aise avec le numérique, qui n'ont pas forcément besoin d'un fort accompagnement et qui sont, ils sont tranquilles, ils sont dans une bibliothèque, ça leur permet de faire une pause et puis de se construire aussi et de se reconstruire une autre vie. Voilà ce qu'on a,
oui,
a pu entendre.
Oui, c'était une complémentarité d'outils et bien sûr, ça a été... les retours qu'on a eus des personnes accompagnantes étaient effectivement très positifs par rapport à ce que ça pouvait apporter, par rapport à ce qu'ils utilisent habituellement.
Entendu. Merci. Je vais être obligée d'interrompre là puisqu'on a un dernier exposé avant la fin de la matinée. Merci beaucoup. Et puis, place à Hélène.
On va se faire comme ça. Voilà, donc je vais essayer de parler super vite pour tenir dans les délais impartis. Voilà, donc cette thématique de la médiation des ressources numériques sur les portails, en fait, que je vais aborder, c'est plus l'idée, c'est pas l'idée de montrer des modèles, c'est plus l'idée de montrer, d'avoir une photographie de nos pratiques à tous pour mettre en valeur nos ressources numériques et, dans le cas qui nous intéresse, nos ressources d'auto-formation. Donc pour préciser un petit peu le périmètre de ce que je veux dire, je reviens juste rapidement sur cette notion de médiation numérique, donc à la fois accompagnement aux usages du numérique, à l'utilisation des services numériques, c'est plutôt ce qu'on vient de voir à travers les témoignages des collègues qui ont précédé. C'est également toute la production numérique de contenu qui est faite par les bibliothèques à des fins documentaires, de médiation documentaire. Et puis, c'est aussi toute la panoplie d'outils numériques qui permettent aux bibliothèques d'être présentes sur le web, signalement, valorisation des collections numériques ou non. Et c'est vraiment l'objet de la présentation qui suit, avec un focus sur les ressources d'auto-formation, vous l'aurez compris. On peut parler d'un écosystème justement de cette médiation numérique sur les portails qui serait marqué à la fois par de l'écrit, production d'écrit, par des dispositifs techniques. En fait, ça reprend le déroulé de la présentation, par des dispositifs relais qui relèvent en grande partie des fonctionnalités des portails, mais qui renvoient aussi à de l'interaction sociale. Et puis, cette médiation numérique, elle exprime aussi des choix de politique documentaire. Donc ces contenus éditoriaux, bien évidemment, leur finalité première, c'est la présentation du service d'auto-formation. Donc par exemple ici, la page d'accueil de la bibliothèque municipale d'Angers, avec une petite présentation du service d'auto-formation et très rapidement un lien cliquable vers la page d'authentification à chacune des ressources, donc MyEco et Tout Apprendre. Et puis, alors il faut vous imaginer que vous scrollez dans la page, c'est la même page, un petit peu plus bas, on a un petit peu plus de précision sur ces ressources d'auto-formation. Donc vraiment une page construite pour deux types d'utilisateurs, des utilisateurs qui vont connaître les ressources d'auto-formation, qui vont juste avoir envie de cliquer rapidement sur la ressource qui les intéresse. Et puis pour ceux qui découvrent le service, un petit peu plus de contenu, une présentation plus approfondie qui va leur donner envie de poursuivre ou non. Un autre exemple, la page d'accueil du réseau des bibliothèques de Lyon, où là on a vraiment un déroulé de l'ensemble des ressources avec le détail, une présentation un petit peu plus consistante de ce qu'est cette ressource, un petit résumé, avec là le lien cliquable qui renvoie à une page d'authentification unique. Donc ça explique aussi la différence de mise en page, puisque quand on connaît le service, on sait que quelle que soit la ressource sur laquelle on clique, on accède à l'ensemble des ressources. Donc là, on est typiquement dans un scénario d'authentification unique. Alors, outre les modalités de présentation et d'accès, ce qui peut varier, c'est les ambiances graphiques sur les portails. Là, on est sur le site de la bibliothèque numérique de Valence Romont Aglo, où on a une présence très forte de l'image pour décrire les ressources. Qui, voilà, l'image est aussi importante que les quelques lignes qui viennent présenter ces ressources. Ou bien aussi le portail de la bibliothèque numérique Mégène d'Aix-en-Provence, avec là un style plus épuré et des petites icônes thématiques qui vont permettre d'accéder de façon thématique aux ressources. À noter que là, on a la possibilité de naviguer dans une arborescence thématique qui permet d'accéder assez finement au contenu des ressources avant même d'être authentifié. Et puis la problématique des bibliothèques départementales, on en parlait un petit peu. Donc en général, c'est la problématique accès aux bibliothèques et accès aux usagers des bibliothèques. Et là, dans le cadre de la bibliothèque départementale du Haut-Rhin, on a aussi une problématique réseau avec un accès pour les lecteurs du bibliobus et la médiathèque du Sungao ou du réseau des bibliothèques du Haut-Rhin. Alors, ce travail d'éditorialisation, il porte aussi, outre le fait de présenter les ressources, sur leur valorisation, le fait de proposer des zooms sur des thématiques de ces ressources. Là, sur le blog de la Bibliothèque des Capucins, du réseau des bibliothèques de Brest, à l'occasion de la rentrée scolaire, en fait, c'était l'occasion de présenter le social pour les préparations concours et puis les ressources de soutien scolaire de Tout apprendre. On a aussi, comme dans la bibliothèque physique, tout un travail une recherche d'attractivité. On va chercher à exposer des tables de sélection, enfin pas des tables, des tables virtuelles de sélection, des sélections, des nouveautés. Là, le fascine pour les nouveautés de la bibliothèque de Mélan. On a cette même démarche où on essaie de rendre attractive, comme dans la bibliothèque physique, des thématiques de ces ressources. Là, un menu, alors c'est pas très visible, mais en fait c'est une entrée de menu nouveauté sur le site des bibliothèques de Brest, des encarts et suivant les fonctionnalités des portails, ça peut être aussi des carrousels, des encarts dynamiques, enfin toute une panoplie d'outils qui permettent de faire des mises en avant. Une autre démarche que j'ai trouvée intéressante aussi, c'était tout ce qui était plus de type réorientation vers des services dans les murs de la bibliothèque, donc dispositif passerelle, où là, sur le blog de la bibliothèque des Capucins, par exemple, on va présenter les espaces numériques pour donner envie d'aller consulter les ressources d'auto-formation dans ces espaces en bénéficiant d'un accompagnement. On parlait justement de l'importance de la médiation humaine. Là, c'est vraiment l'idée de faire du lien entre le portail et la bibliothèque physique. Donc si je résume, les constantes par rapport à cette thématique éditoriale, c'est de l'écriture, un travail sur la mise en page avec une recherche d'interactivité, un choix de présentation en bloc des ressources ou dans le menu détail, un travail sur la proposition de sélection, des regroupements thématiques, la présentation, la mise en avant des nouveautés et puis une double démarche hors les murs et dans les murs. Et puis, cette médiation numérique, elle est aussi rendu possible grâce à une panoplie de dispositifs techniques qui vont permettre un interfaçage plus ou moins fin des ressources numériques sur les portails, qui vont permettre plus ou moins d'hybridation des collections, alors physiques numériques ou numériques entre elles. Donc cet interfaçage, il va permettre des fonctionnalités de recherche, comme la recherche fédérée, des fonctionnalités de tri, grâce au filtrage, grâce aux facettes, par exemple, et des fonctionnalités de rebond, de navigation. À la base, on en a parlé, ces fameuses API, ces connecteurs. Alors, mon schéma n'est peut-être pas excellent, c'est juste pour donner les grandes lignes du fonctionnement. Et bon, j'ai quelques doutes sur le peut-être. Y a-t-il parmi vous des spécialistes, et surtout n'hésitez pas à intervenir. Donc l'idée, c'est ces connecteurs permettent de mettre en correspondance les métadonnées d'une ressource numérique donnée avec la structure et les fonctionnalités du portail de la bibliothèque, donc en permettant un affichage homogène des notices, des fonctionnalités de recherche et des fonctionnalités de tri. Alors, à noter que justement, les connecteurs sont liés à une ressource et à un environnement informatique côté bibliothèque. Il existe plusieurs scénarios de recherche fédérée, donc c'est une des fonctionnalités justement de cet interfaçage qui permet une meilleure navigation. On peut avoir des agrégations entre portails, de plusieurs sources au sein des portails. Donc, par exemple, sur le site de la bibliothèque municipale à vocation régionale de Rennes, les champs libres, si on lance une recherche code de la route, donc sur le portail de la BMVR, ou sur le portail du réseau des bibliothèques de Rennes, la même recherche code de la route, on va arriver à une page de résultats qui agrège les catalogues de la BMVR et du réseau des bibliothèques et le catalogue de la médiathèque numérique. Donc on aura à la fois une agrégation de résultats physiques numériques et puis donc avec un accès aux détails de cette ressource, là en l'occurrence tout à prendre. Si on lance la même recherche code de la route sur le portail de la bibliothèque numérique cette fois-ci, à ce moment-là, on aura une agrégation de résultats numériques, donc à la fois des pages du portail sur cette thématique et puis la même ressource code de la route. Un autre moyen en fait, de permettre une meilleure navigation sur les portails, c'est la proposition de facettes. Donc là, j'en ai sélectionné quelques-unes pour vous montrer la diversité de critères de classement qu'on propose à nos usagers. Et en fait, quand je dis « on propose », ce n'est pas toujours les bibliothèques, mais souvent les éditeurs de logiciels en fait, derrière. Donc on trouve la notion de source, la notion de support avec le libellé formation en ligne, la notion de disponibilité, la notion de type de document, type de document avec formation en ligne à nouveau, la notion d'éditeur, une classification par sujet, par type de document à nouveau, mais là c'est la notion de site, et puis l'utilisation de tags pour classer les ressources. Et enfin, l'autre fonctionnalité permise par cet interfaçage avec les ressources numériques, ce sont les fonctionnalités de rebond, donc qui vont permettre une meilleure fluidité de navigation et plus de une meilleure découvrabilité, on peut dire, avec ici dans le cadre de la bibliothèque départementale de la Meuse, un système d'onglets dédié au rebond. Assez intéressant. Donc, on arrive sur des formations voisines, même type de préparation au concours, à des examens de langue, ou bien le plus classique, ce sont des hyperliens dans la notice qui vont permettre de rebondir sur des sujets ou bien sur des mentions de responsabilité, des mentions d'édition. Derrière ces questions d'interfaçage, bien sûr, c'est la question des métadonnées qui se posent, de leur hétérogénéité qui va conduire certaines bibliothèques à cataloguer les ressources numériques. Là, c'est une notice de la Bibliothèque publique d'information. Donc, j'ai découvert à l'occasion de ce travail que la BPI cataloguait les ressources d'auto-formation. Et donc, ça ouvre des horizons super intéressants pour nous. Voilà, c'est une démarche qu'on trouve à noter que donc cette, par rapport à cette question des connecteurs, je me suis livrée à un pointage en fait des éditeurs de ressources numériques qui étaient référencés sur le réseau, sur le site du réseau Carel et qui proposaient des connecteurs. On arrive à un gros quart. Donc c'est pas du tout général en fait, ça demande de gros moyens de développement. Par contre, l'authentification unique, elle est proposée de façon beaucoup plus systématique. Cette question des connecteurs soulevant la question de la dépendance des bibliothèques aux éditeurs de logiciels et de la dépendance aux métadonnées des éditeurs de ressources numériques, bien sûr. Donc là, on était plus sur la valorisation, le travail qui est fait sur les portails, mais dans la boîte à outils du numérique, on a aussi tous les dispositifs numériques qui vont venir relayer l'information présente sur les portails, la pousser vers les usagers ou permettre de l'interaction. Donc les blogs, c'est toujours le même blog, je suis désolée, toujours la bibliothèque des Capucins. La présence sur YouTube. Donc ici, on a le temps de visionner ces 5 minutes, le web magazine. Donc en fait, c'est le réseau un réseau de bibliothèques autour de Montréal, la Montérégie, qui propose un web magazine qui met en avant, alors alternativement, les ressources physiques, les ressources numériques, mais régulièrement, un épisode est dédié aux ressources numériques qui sont présentes sur le portail. On a 5 minutes, en sachant que...
Peut-être un peu juste, non ? Est-ce
qu'on a le temps de regarder 5 minutes de... Bon, après, j'ai encore 5 minutes, 5-10 minutes de présentation.
Je pense qu'il faut avancer. On mettra ces références sur
le site. Donc le lien, de toute façon, est sur le diaporama. Ouais. Pas de souci, mais allez voir. C'est vraiment un chouette outil de communication et de valorisation des ressources d'auto-formation. Système de newsletter, on en parlait. Le fait de proposer des applications. Donc là, c'est ce que propose la ressource Tout Apprendre avec une appli qui permet de consulter la ressource. Donc ça permet un usage nomade des ressources numériques. Les réseaux sociaux, donc ici le compte Twitter du réseau des bibliothèques de la ville de Paris ou le compte Facebook de la bibliothèque Marguerite Duras, le même réseau. L'utilisation de flux RSS qui vont permettre aux usagers de s'abonner aux nouveautés, aux modifications qui sont faites sur les pages des portails des bibliothèques, les fonctionnalités d'avis, de commentaires qui vont permettre de l'interaction avec les usagers et puis une présence accrue des bibliothèques sur le web. Donc derrière cette médiation numérique, il y a des choix, me semble-t-il, de politique documentaire. Donc difficile de ne pas évoquer Bertrand Calange quand on parle de politique documentaire. Donc là, c'était sa participation à l'ouvrage intégré des ressources numériques dans les collections, où il mettait en avant la nécessité, alors c'est contradictoire avec le titre de ma diapo, je suis bien d'accord, la nécessité de proposer une politique, d'élaborer une politique documentaire globale, même si elle est désormais hybride. Et donc, vous allez comprendre le sens du titre de la diapo. Je me suis néanmoins posé la question de savoir si il pouvait y avoir des problématiques liées à la médiation numérique qui impactaient la politique documentaire. Et là, du coup, c'est vraiment un peu un exercice personnel. Donc, surtout, n'hésitez pas à critiquer et à réagir. Donc, il me semble que par rapport aux questions de connectique, l'accès aux ressources impactant leur signalement, on a bien un impact sur la politique documentaire. Le signalement par la recherche fédérée a tendance à mettre en avant les plus gros éditeurs, c'est ce que signalait Guillaume Hatt dans le même ouvrage que je citais précédemment. Et puis, c'est Marianne qui l'évoquait, la dépendance aux dispositifs techniques, le fait d'avoir à chiffrer des connecteurs, toute cette tuyauterie, en fait, a tendance à nous enfermer dans un choix de ressources peut-être. Alors parfois on est vraiment bloqué. Je pourrais vous parler de l'exemple de la bibliothèque départementale des Côtes d'Armor, mais parfois c'est juste qu'on veut limiter l'impact budgétaire. La question de la visibilité sur le web, ce qui est bien présent en fait sur les portails des bibliothèques, c'est, je l'évoquais tout à l'heure, un choix de complémentarité entre ressources gratuites et payantes, donc une hybridation vraiment avec différents dispositifs. Je vais l'évoquer dans les diapos suivantes. La question de la granularité aussi, du choix de granularité par rapport au signalement des ressources numériques. Est-ce qu'on signale juste le catalogue, la ressource tout à prendre, par exemple, ou est-ce qu'on va signaler le détail le contenu de cette ressource. Et puis la spécificité, la dernière spécificité des ressources d'auto-formation qui impacte la politique documentaire, c'est le fait d'avoir affaire à des collections de ressources déjà constituées. Même si on a la possibilité de mixer, de choisir différents packs, on est quand même face à des grosses collections à intégrer. Et ça impacte, me semble-t-il, nos choix de politique documentaire. Donc, pour illustrer cette thématique de l'hybridation des collections gratuites payantes, trois types de scénarios que j'ai trouvé assez récurrents. Le fait de présenter des MOOC. Alors, sur la thématique auto-formation, c'est le gros pendant, en fait, aux ressources acquises à titre onéreux, en fait, c'est de proposer des MOOC. Là, on a sur le portail du réseau des bibliothèques d'Angers, on a un onglet, une entrée de menu en face de l'entrée de menu formation en ligne. On a une entrée de menu MOOC, consacrée au MOOC. Des cytothèques, là c'est le réseau des bibliothèques de Béziers. C'est aussi une façon de mettre en avant des ressources gratuites, proposer une cytothèque. Alors, ce qui est intéressant avec le portail des bibliothèques de Béziers, c'est que en fait ils reprennent le contenu de cette cytothèque en la mixant dans l'encart de présentation des ressources payantes. Et ils cataloguent aussi les notices, donc une intégration fine dans leur SIGB de ces contenus gratuits. Et dernier type de mise en avant des ressources gratuites, c'est en les mixant à l'intérieur d'une page avec les ressources payantes. Avec, là c'est le cas de la bibliothèque numérique de Rennes Métropole, un code visuel pour signaler les deux types d'accès, donc un accès ouvert, un accès fermé. Voilà, et je termine par cette citation de Brian Garms. Alors, on parlait du rôle historique de la BPI et par rapport à l'auto-formation. J'ai retrouvé des actes d'un colloque qui avait eu lieu en 2006, à la BPI sur la thématique de la formation tout au long de la vie. Quel rôle pour les bibliothèques à l'heure du multimédia ? C'est un des actes de colloque qui sont accessibles sur le site Open Edition et c'est super intéressant d'avoir cette mise en perspective, de voir que les questionnements qui avaient pu se poser à l'époque sont finalement toujours d'actualité. Je trouvais intéressant aussi le positionnement de Brian Garms pour une approche de l'apprentissage, d'une mixité d'approches d'apprentissage. Voilà, je vous laisse lire vous-même.
Voilà. Merci beaucoup pour cet exposé et pour le travail qu'il a représenté aussi de faire toutes ce fil et ces captures d'écran pour nous présenter quelque chose de synthétique et de cohérent. Merci beaucoup, Hélène.
La matinée va s'achever. Je vous remercie pour votre attention, pour votre patience aussi. Et vous dire que l'après-midi va continuer, donc vous pourrez poser vos questions cet après-midi. Ça reprend à partir de 14h. Toute cette matinée a été enregistrée grâce aux bons soins de nos collègues qui sont en régie. Donc je vois Thomas et Alexandre. Donc je voudrais que vous les remerciez parce que l'organisation de cette matinée qui devait se dérouler en petite salle et qui se déroule ici leur a demandé un travail d'intelligence supplémentaire, je vais dire ça comme ça. Les captations seront faites. Vous pouvez retrouver, je pense, les supports des intervenants qui seront d'accord pour partager leur support sur le site de Réseau Carrel et sur le site de BPI Pro, normalement. Vous allez pouvoir sortir par l'entrée de la BPI à 12h30. Je vais vous demander de conserver vos badges pour pouvoir entrer à nouveau à partir de 14h à l'entrée de la BPI. On se retrouvera donc au niveau 2 de la BPI pour une présentation des éditeurs. Mes collègues du service auto-formation vous présenteront l'espace si vous le souhaitez. Vous pourrez aussi être accueillis dans des... Il y a 3 ateliers tout l'après-midi donc pour vous présenter les ateliers de langue et les ateliers numériques. À tout à l'heure.